Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Invitation au bonheur. Alors, comme chaque lundi, je reçois un invité différent. Et cette semaine, mon invité, c'est...
Jacqueline Marié.
Jacqueline Marié. Alors, Jacqueline Marié est une amie de longue date, mais j'avais envie, en effet, d'aller un peu plus loin dans nos échanges et d'avoir sa vision du bonheur. Aujourd'hui, Jacqueline Marié va nous parler du bonheur. Alors, tiens, Jacqueline, qui es-tu ? Si tu devais te définir, sans parler du métier que tu as exercé pendant très longtemps, sans parler de ton état civil, tu me parles de toi, qu'est-ce que tu dis de toi ?
Eh bien, donc, moi, en fait, je descends du milieu agricole, terrien. Mes origines, effectivement, de longue date, sont dans le domaine de la terre. Et effectivement, j'ai une attache profonde à la nature, à tout ce qui est, ce qui fait notre environnement de tous les jours naturel et qui constitue un élément important de notre vie. Voilà, je viens donc de ce monde-là.
Et tu viens d'une île ?
Alors bien sûr, donc il y a le milieu terrien, mais également le milieu marin, auquel je suis effectivement très très profondément attachée. La mer m'attire, m'a toujours attirée. J'ai eu une période dans ma vie où j'ai pratiqué des sports nautiques et c'était quasiment une folie. Bon, je ne suis pas une experte en navigation parce que j'ai commencé un peu tard, mais effectivement, je rêverais de faire des parcours nautiques. J'en ai fait quelques-uns qui m'ont vraiment marqué. Donc la mer, effectivement, est un environnement qui me séduit beaucoup, mais qui m'impressionne aussi par ses aspects de dangerosité.
Alors dis-nous de quelle île tu viens ?
Alors, c'est Oléron, l'île d'Oléron, l'île lumineuse, deuxième île après la Corse. Donc, c'est une île qui est assez sauvage, qui comporte effectivement une variété de paysages et qui nous procure effectivement des immensités en termes de littoral, avec des plages qui sont très séduisantes, grands espaces. Et c'est vraiment donc quelque chose qui me séduit aussi sur cette île.
Tu sens tes racines profondes là-bas quand tu y vas ?
Oui. Donc, en fait, j'ai quitté l'île, pour aller travailler, pour gagner ma vie, si je puis dire. Et c'était en pleine période estivale, donc ça ne m'a pas du tout, je pensais effectivement à constituer un avenir professionnel. Et comme peut-être beaucoup, peut-être auraient profité de la saison estivale, j'avais en tête de poursuivre ma propre expérience et en allant donc au secteur urbain. Et en montant sur Paris, je me demande encore comment mes parents m'ont laissé partir. Mais c'était pour aller travailler, donc il y avait une indulgence familiale.
Tu avais quel âge quand tu montais à Paris ?
J'avais donc j'avais 22 ans, quoi, 22 ans. Et donc ouais, j'avais mon petit diplôme en poche, 2 ans après le bac, un titre de gestion. Et je pouvais voler de mes propres ailes, et tant mieux, parce que bon, c'était en 74, donc il fallait effectivement, j'avais effectivement pressenti qu'il fallait que je sois autonome assez rapidement après mes études. Et heureusement, parce que sur ma cellule familiale, mon papa est tombé malade l'année où je suis montée à Paris. Ce fut effectivement quand même quelque chose de difficile à vivre, étant donné que j'étais à 550 km. Donc voilà, donc je suis venue sur Paris et je me suis adaptée et j'ai beaucoup aimé la ville. Et donc, que ce soit le milieu, je dirais, de cette île que j'affectionne, ou le secteur parisien, enfin en banlieue maintenant, je suis bien dans les différents milieux. Donc je constate que, par obligation aussi, l'adaptation s'est faite sans problème. Après, j'aspire aussi à terme de retourner sur mon île natale. Donc on ne sait pas quand, mais ça va être un projet qui est dans ma tête, quoi.
Donc ça veut dire qu'on peut être heureux ou qu'on soit finalement.
Oui, je pense que l'adaptation de tout homme et toute femme est importante et on trouve partout un épanouissement, en fait. Il faut essayer de le chercher, effectivement être ouverte aux autres, et puis essayer de faire des amis, d'essayer de vivre au mieux. Et quand je fais le flashback, c'est plutôt une expérience intéressante. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand même ce fond de mer, enfin tout ce qui est l'élément marin, quoi. Ça manque un peu, mais en région parisienne, bon, on a autre chose, on a la culture, on a les spectacles, on a autre chose, quoi. Mais les deux sont bien, il faut pouvoir arriver
Et tu arrives à combiner les deux aujourd'hui? Tu arrives à te partager entre l'île
Oui, alors.
d'Oléron et Paris? Tu arrives à te ressourcer à chaque fois dans chaque.
Oui, ben, disons que, alors bon, si je prends ma propre expérience, donc Oléron, bon, j'ai des choses à gérer sur le plan familial, hein, donc il faut y aller pour s'occuper des différents dossiers. Et sur le plan, ben, alors sur Paris, puisque maintenant, bon, j'ai quitté mon activité professionnelle en 2013, mais bon, ben, je m'occupe de ma famille qui est toute proche, et donc. C'est bien de pouvoir évidemment être près de mes enfants, de nos enfants avec Didier, mon conjoint. De comme ça, nous profitons bah, autant faire soit peu de nos petits-enfants et de nos enfants. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc en fait, pour le moment, il y a des attaches. Il y a des attaches des deux côtés. En fait, ce qui explique que. Il y a une période où il a fallu effectivement être très près parce que ma maman était en fin de vie. Donc il fallait l'accompagner. Et après, ben, aujourd'hui, bon, je suis quand même très, très liée sur la région parisienne pour le problème de proximité sur les petits-enfants, donc et puis la famille qu'il faut aider, quoi, ma fille, et puis Didier, ses enfants.
Alors
Voilà un peu.
cette émission, Jacqueline, elle s'appelle Invitation au bonheur. Donc je reviens souvent pour parler du bonheur. Et donc quand je t'entends en parler, je me dis mais finalement on pourrait se sentir tiraillé entre deux lieux comme ça. Et toi, j'ai l'impression que tu trouves ton équilibre, ton harmonie entre les deux lieux. Donc on peut aussi se sentir heureux en ayant deux points de chute comme ça, deux points d'attachement.
Ben, alors, la définition que je ferai un peu du bonheur, c'est être en accord avec soi-même. C'est-à-dire que bon, dans sa vie, on n'est pas forcément toujours en accord avec soi-même. On exerce une profession qui exige beaucoup d'abnégation, c'est-à-dire qu'on est bah, sous les ordres d'une direction, on doit répondre à des objectifs de rentabilité quand vous gérez donc effectivement un portefeuille avec des clients, des collaborateurs. Donc c'est pas forcément, vous le faites parce que c'est intéressant, vous avez un intérêt à ce que vous faites, mais pour moi, je l'ai fait, mais c'était, je n'étais pas en accord avec moi-même. C'est-à-dire que même si on avait l'impression de rendre service à la clientèle, qui était par ailleurs très agréable et qui nous rendait beaucoup de retours positifs, mais l'accord avec soi-même, mon accord avec moi-même, en fait, je ne l'avais pas vraiment. C'est-à-dire que j'étais quand même malgré tout heureuse, mais je l'ai plutôt aujourd'hui de façon plus accomplie. Dans la mesure où, effectivement, être en accord avec moi-même, c'est de donner autour de moi. C'est pouvoir bah, rendre service quand je peux. Garder des petits-enfants. Donc après, c'est être aussi au service des obligations familiales, parce qu'il y en a, et on ne va pas se plaindre d'en avoir, parce que notre famille a travaillé très dur. Pour pouvoir faire une transmission à leurs enfants, et j'en serai éternellement reconnaissante. Donc c'est un hommage aussi à mes ascendants. L'accomplissement, c'est aussi, bah, disons, pour moi le bonheur, c'est aussi une harmonie familiale. Alors, on travaille pour l'avoir, l'harmonie familiale, on l'a pas toujours parce qu'il y a des embûches sur le chemin. Mais je pense qu'effectivement, la famille est un lieu de ressourcement très important pour essayer de capter cette notion du bonheur. Donc je pense que c'est dans les différents aspects qui constituent le bonheur, pour moi, c'est des axes effectivement importants. Donc effectivement, se recentrer sur soi, être conforme à ses idées, à ses valeurs. Et puis retrouver cette harmonie familiale et se trouver bien dedans. Et travailler pour justement parfois, résoudre certaines difficultés qu'on peut rencontrer. Essayer d'appliquer ce très beau principe de communication non violente que j'ai entendu bien souvent de mon ami Jean-Marie, et qui illustre parfaitement par sa thématique d'enseignement cette notion de communication non violente, même si effectivement c'est très très compliqué parfois d'arriver à
Oui, c'est pas facile, hein. La communication non violente, tu en parles, et c'est vrai, j'en profite pour rebondir dessus. C'est un autre langage qui nous oblige aussi à penser autrement et souvent à penser à un peu à l'envers par rapport à tout ce qu'on a appris depuis qu'on est très petit, puisque nous sommes tous baignés dans le jugement. Très tôt, on nous apprend c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est pas juste, c'est les gentils, c'est les méchants. Et on apprend à poser des jugements. Et donc, on est pétri aussi de préjugés de par notre éducation, notre environnement socio-culturel, familial, etc. Et scolaire et autres. Et apprendre à se défaire de tout ça pour être capable d'observer sans jugement. Pour être capable d'exprimer ses émotions et de ne pas interpréter les émotions de l'autre et de se raconter des histoires par rapport à des éléments dont on n'a pas toutes les pièces du puzzle. C'est aussi être capable de faire une demande qui ne soit pas une exigence à l'autre, où on laisse la liberté à l'autre de nous dire non éventuellement et de savoir le faire pour donner envie de sortir par le haut de façon productive, de façon constructive, d'un échange, que ce soit conflictuel ou pas. C'est un art, c'est aussi une façon de parler qui est nouvelle pour beaucoup de personnes et qui est donc difficile. Moi, je fais souvent le parallèle, je ne suis pas le seul, avec l'apprentissage d'un instrument de musique, l'apprentissage d'une pratique artistique, l'apprentissage d'une nouvelle langue. On le sait en démarrant que ça ne sera pas parfait au départ et qu'on y arrivera peut-être au bout d'un certain temps. Bien, c'est la même chose pour la communication non violente. Et gardons cette humilité aussi de dire c'est pas parce que j'ai lu tous les bouquins de Marshall Rosenberg, c'est pas parce que j'ai suivi des formations, c'est même pas parce que je suis certifié en CNV, etc., que pour autant j'ai vraiment complètement acquis ce langage. C'est un travail du quotidien et souvent un travail où on vient défaire des croyances, des habitudes, parce qu'elles ne nous sont pas utiles, tout simplement. Donc, merci de m'avoir permis de rebondir dessus. Moi, tu disais tout à l'heure, je suis surpris, je me souviens encore de ton départ à la retraite. Tu me dis, voilà, c'était déjà il y a 7 ans. Tu m'as dit alors, 2013, on est en 2020.
Mais ça ne fait pas tout à fait 7 ans, ça fait 6 ans et quelques.
Allez, tu dis comme les enfants, 6 ans et demi, j'ai pas 7 ans.
Ça me permet de ne pas trop me vieillir.
Non, mais ce n'est pas une question de vieillir, c'est que 7 ans, moi ça me fait penser avec mon petit garçon qui a 7 ans aussi. 7 ans, c'est l'âge de raison. Est-ce que tu penses être entré dans l'âge de raison de la retraite? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu es une retraitée heureuse?
Oui, alors donc, la retraite, c'est un moment que toute personne ayant une activité professionnelle attend, et c'est bien justifié. Moi, la retraite, je l'avais préparée, c'est-à-dire quand j'ai pu partir, je veux dire que tant que j'ai travaillé à fond, je me suis investi, et puis je n'ai pas vraiment possibilité de faire autrement. Et ensuite, j'ai réfléchi en me disant, justement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'être plus en accord avec toi-même, avec ce que tu as envie de faire, etc. Et j'ai effectivement eu cette perspective de dire, effectivement, la retraite est peut-être le moment où on va effectivement avoir moins de ressources financières, puisque les ressources n'ont pas les mêmes lorsque l'on travaille. Mais j'ai fait un choix, c'est-à-dire que la partie rémunération, je l'ai mis de côté et j'ai considéré que il était temps de se préserver aussi, sur le plan santé, sur le plan de l'équilibre personnel, parce que c'est très très chronophage au niveau de ce que ça peut nous demander en énergie. Donc je pouvais le faire, j'ai pris ma retraite et donc je pense qu'effectivement c'est une période auquel il ne faut pas avoir peur. Il y a un certain nombre de personnes qui effectivement quand ils ont une activité très très remplie. Avec évidemment toutes ces relations clientèle, collaborateurs, tout ce que enfin des partenaires, enfin tout ce qui fait la richesse de l'activité professionnelle. Et tout d'un coup, évidemment, ça peut effrayer de dire, du jour au lendemain, ça va s'arrêter. Bon, il fallait effectivement compenser avec d'autres choses à faire qui pouvaient me procurer certaines satisfactions. Et donc je suis mis à suivre un cours de création artistique sur le plan peinture. Bon, donc ça m'a fait du bien. Je n'ai pas encore le temps, donc c'est un peu dramatique de dire ça lorsqu'on est en période de retraite, mais je ne peux pas consacrer suffisamment de temps à cette activité et je prévois d'y consacrer plus de temps à l'avenir, dans un avenir proche que j'espère pas trop lointain.
Voilà, quand tu seras en
Oui,
retraite
en
de la retraite. Voilà.
retraite de la retraite, on va dire ça
Alors,
comme ça.
donc, ok. Alors, quelquefois, on s'imagine une retraite et puis quelquefois, c'est différent parce que la santé n'est pas au rendez-vous, parce que de mauvaises surprises peuvent nous tomber dessus à ce moment-là, n'est-ce pas? Et donc, on a envie aussi de chanter peut-être un ode à la vie. Et peut-être que c'est le titre que tu as choisi. Je vais le laisser découvrir aux auditeurs et puis tu nous en parleras par la suite. D'accord? Alors dis-moi, Jacqueline, tu as choisi ce titre, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui t'évoque ce titre de Coldplay?
Alors donc ce titre, je l'ai apprécié, disons dès sa sortie. Et en fait, c'est par ce qui dégage en fait, c'est un optimisme, optimiste dans la vie, dans la vie, etc. Et un aspect un peu mystique que j'ai découvert dans les paroles. Mais ça me procure un énorme bonheur, hein. Contrairement à d'autres chansons où c'est plutôt de la tristesse, hein. Donc on peut avoir effectivement, par rapport à un morceau, une joie immense à écouter le morceau. Et cette joie, c'est un bien-être en fait. Si effectivement on a une sorte de blues, il suffit de mettre le morceau et tout repart. Et donc c'est un petit peu ça que je ressens chez Coldplay là dans cette version un petit peu aérienne, un peu, je trouve un peu par la découverte du fond. Donc c'est quand même un peu particulier dans le sens où c'est une forme de divinité, de puissance, etc. Et un peu interstellaire. Donc c'est un titre que j'aime beaucoup.
Il y a une part de spiritualité dans cette chanson, ou quoi?
Ben, moi, je la retrouve hein, maintenant. Disons que voilà, les cloches de Jérusalem. Donc c'est quand même c'est particulier, quoi. Donc c'est, je pense.
Et pour toi, aujourd'hui, bonheur et spiritualité, ça va ensemble?
Alors, ben, c'est une question qui m'est agréable qu'il soit posé parce que pour moi, effectivement, la spiritualité, c'est une nourriture. Alors, spiritualité, on peut la chercher de différentes manières. On peut être spirituel avec un ressourcement intérieur, etc. Et on peut aussi avoir une foi religieuse. Et moi, je suis, j'ai la, je, comment dire, j'ai la sens, la chance, oui, parce que je considère que c'est la chance d'avoir une foi chrétienne. Et donc, c'est ce qui, enfin, ça anime beaucoup. Ça m'anime beaucoup. Ça m'anime beaucoup. J'ai effectivement eu l'occasion de faire partie d'une organisation au service des malades. Ça fait 3 ans que j'ai eu la chance de participer à l'accompagnement donc dans le cadre de l'association de l'hospitalité diocésaine de Sainte-La Rochelle pour accompagner les malades au pèlerinage de Lourdes. Et c'est quelque chose qui a pris effectivement une grande importance dans ma vie. Et c'est quelque chose qui se cultive parce que sincèrement, il y a des événements dans la vie qui vous font réfléchir, qui vous font méditer sur le sens de notre vie. On n'est pas éternel. Et vous amène à vous recentrer sur vous et aller aussi vers les autres pour pouvoir discuter sur les fondements de notre, enfin de ce que l'on est et notre destinée. Donc voilà, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir cette foi.
Donc bonheur et spiritualité,
Ouais.
bonheur et famille, parce que
Ouais.
tu as le bonheur de voir grandir aussi tes
Ouais.
petits-enfants, les petites filles, je pense notamment, hein,
Après la famille,
et le bonheur de
l'unité.
retrouver l'unité d'une
Au
famille,
niveau
voilà,
et
c'est
puis au
toujours
niveau
important.
aussi ben voilà comment dire le bonheur en fait quand on fait le flashback dans sa vie c'est une notion que j'aime bien parce qu'en fait on a tout à chacun on a eu des difficultés dans la vie. Je connais difficilement enfin je connais vraiment pas toutes les personnes que j'ai côtoyées à un moment donné ont eu des difficultés. Et c'est effectivement, si on a à un moment donné été malheureux pour la perte d'un être cher, parce qu'on a vécu la maladie, parce que y a des choses dans la vie, des séparations, des choses qui heurtent, etc. Bien, quand on fait ce flashback et qu'ensuite on retrouve une harmonie de vie de couple, par exemple, parce que moi c'est ce que j'ai vécu, où j'ai eu un grand drame personnel dans ma vie, et pour avoir, ben, disons ensuite, une combativité, parce qu'il fallait effectivement continuer à vivre. Et à élever ma chère petite fille, après, bah, ne pas perdre effectivement la volonté de s'en sortir, de toujours avec beaucoup d'optimisme. Hein. L'optimisme me caractérise et je pense qu'effectivement, c'est un élément qu'il faut développer quand on est effectivement parfois un petit peu, qu'on a touché des choses un peu difficiles. L'optimisme fait avancer. Et donc, je considère qu'effectivement ce flashback après pour arriver à on va dire à une certaine sérénité parce que ben on a cru dans la vie, on a cru qu'à un moment donné il y aurait une lumière au bout du chemin et eh bien c'est ce que j'ai vécu. Donc c'est tout ça qui fait que ben, le bonheur on l'avait à un certain moment, on l'a eu à différents niveaux, et c'était pas le même et qu'il y a une continuité du bonheur mais qui n'est pas le même et qui s'accomplit au fur et à mesure du temps.
Donc le bonheur, c'est pas une notion arrêtée dans
Non.
notre vie. C'est quelque chose de vivant. Notre bonheur vit. Il vit avec nous. Il n'est pas le même quand on a 7, 10, 15, 30, 40, 50, 60, 75 ans. On n'a pas le même bonheur. Mais par contre, on peut aussi être à la quête, en quête du bonheur toute sa vie sans le trouver. Mais on peut aussi faire un arrêt sur image et prendre conscience de son bonheur. On peut aussi travailler son optimisme, tu l'as dit à l'instant. Et en effet, c'est pas naturel d'être optimiste. Ce qui est naturel, c'est d'être pessimiste, c'est de s'attendre au pire, parce que c'est comme ça qu'on a survécu pendant des milliers d'années. Parce qu'en effet, si on savait qu'on risquait à tout moment de rencontrer une bête sauvage ou de manger des baies empoisonnées, etc., eh bien, on était très prudent et on se disait, non, je vais peut-être pas le goûter, c'est peut-être mauvais, ou je vais peut-être pas sortir tout de suite parce qu'il y a peut-être un loup qui m'attend au bout du chemin. Donc, c'est parce que nous sommes pessimistes que nous avons pu survivre longtemps, mais c'est parce que nous sommes optimistes que nous pouvons vivre aussi beaucoup plus heureux. Alors, je ne vais pas revenir sur cette notion d'optimisme, c'était une de mes premières chroniques l'année dernière, mais je vais te faire tirer une carte du jeu de l'optimisme. Et donc voilà, tu dois choisir parmi ces cartes une question que je ne connais pas, et donc tu vas la lire, et c'est une carte sur l'optimisme.
Alors, quel est le compliment que tu préfères donner aux autres ? Le compliment, il va être en fonction des critères que je vais trouver dans l'autre. Et je vais pas donner un compliment si je foncièrement je considère que j'ai pas donné de compliment. Donc ça va être complètement conditionnel. C'est-à-dire que ça va être ce que m'inspire la personne qui est à côté de moi. Bah, ça peut être quelqu'un, qu'il est altruiste, que voilà, c'est des choses que j'aime retrouver dans chacun. L'altruisme, l'humanisme, des choses comme ça. Donc
ça veut dire que si tu fais un compliment à quelqu'un, c'est sur la personne,
oui.
C'est sur elle, sur son être, et pas sur ses actions ou ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait en priorité. Voilà, c'est ce que j'entends de ce que tu dis.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le grand principe, l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire qu'en fait, depuis tout le temps, hein, depuis que j'ai certaines maturités d'adulte, j'ai toujours été rechercher l'intérieur de ce qu'il y a dans la personne plutôt que l'apparat. Hein. Donc l'apparat, c'est quelque chose qui n'est pas durable, qui n'est pas inscrit dans le long terme, contrairement à l'être, ce qu'il y a vraiment au fond de l'humain.
Alors, ce que tu appelles l'apparat, c'est ce que j'appelle moi souvent le paraître, en fait. Hein. Tout ce que nous faisons pour le regard des autres, pour la convention, pour le bon sens, etc. Et qui, quelquefois, nous éloigne de nous-mêmes, nous éloigne de notre authenticité. Et tu avais quelque chose à dire aussi
Oui, alors, justement, pour rebondir un peu sur ça, c'est qu'il y a effectivement le paraître, etc. Donc, tu as donc dans ton livre, Les Chroniques du Bonheur, j'ai effectivement localisé quelque chose qui m'a vraiment interpellée quand tu abordes effectivement que le bonheur, c'est axé sur le besoin de liberté, de sécurité, disons que la notion de confiance, hein, avoir peur, passer à la notion de confiance. Et après, tu dis, osez, prenez des risques, allez chercher vos forces, vos talents, vos vertus, en résumé, n'ayez pas peur d'être vous-même, et justement, d'être vous-même, par opposition à se donner un rôle, c'est-à-dire que, et c'est très très important, c'est-à-dire que dans les rencontres qu'on peut faire, tu as des gens qui sont dans l'apparat, c'est-à-dire qu'ils vont pas être, pour rejoindre, rebondir ce qu'on vient de dire, c'est que t'as des jeux de rôle. Et en fait, si tu grattes un peu, tu vas t'apercevoir que si effectivement les personnes veulent te dire « Oh ben moi je suis ami avec toi », etc. Mais après, tu grattes un petit peu et tu vas t'apercevoir que non, c'est plutôt un jeu de rôle et qu'au fond d'eux-mêmes, non, ils ne sont pas forcément amis avec toi et que les vrais amis, tu les vois quand ils sont dans la difficulté. Moi, je l'ai vécu et c'est un exemple. Donc, le paraître, pour moi, c'est « je m'en méfie ». Enfin, je m'en méfie et je le fuis. La notion d'attirer le regard de l'autre, mais sur quelque chose qui n'est pas forcément son vrai moi, quoi. Hein, c'est ça.
Donc, alors en fait, c'est ça, c'est notre authenticité en comparaison avec notre ego, c'est-à-dire ce que nous faisons, parler, hein. Voilà, pour simplement plaire, pour le regard, pour répondre à des critères, mais qui ne sont pas nous, qui nous éloignent de nous-mêmes. Bien, écoute, on va passer à la dernière phase de mes invitations au bonheur, et je vais partager, donc pour toi et pour nos auditeurs, un petit conte, et je te laisserai aussi donner ton point de vue sur ce qu'évoque pour toi le conte, parce que Ça va te parler, ça parle justement du don, voilà. Comment est-ce qu'on est heureux aussi à trouver le bonheur des autres. Le conte de cette semaine s'intitule Les ballons. Un groupe de 50 personnes participait à un séminaire et tout à coup, le conférencier arrête de parler et commence à donner à chaque personne un ballon de baudruche. Il invite chaque personne à écrire son nom sur le ballon à l'aide d'un marqueur. Ensuite, tous les ballons sont recueillis et mis dans une autre pièce. Le conférencier demande aux participants d'entrer individuellement dans la pièce et de trouver chacun le ballon sur lequel est inscrit son nom en moins de 5 minutes. Tous se ruent dans la pièce et frénétiquement se mettent à la recherche de leur nom. Les gens se poussent, se piétinent et se bousculent dans un désordre total. Au bout de 5 minutes et même plus, personne n'a pu trouver son propre ballon. Alors le conférencier dit « Maintenant que chacun recueille au hasard un ballon et le donne à la personne dont le nom y est inscrit. » En quelques minutes, tout le monde a eu son ballon. Le conférencier dit alors « Ce que nous venons de faire est exactement ce qui se passe dans nos vies. » Tout le monde est désespérément à la recherche de son propre bonheur tout autour, ne sachant pas où il est. Or, notre bonheur réside dans le bonheur des autres. Voilà pourquoi, si vous aidez les autres à trouver leur bonheur, vous obtiendrez votre propre bonheur aussi. Et tel est le but de la vie des hommes. Apprenez à mettre un sourire sur le visage de quelqu'un et vous aurez également un sourire en son temps. Alors, Jacqueline, tu découvres ce conte ?
Ah oui, je connaissais pas du tout ce conte et je trouve qu'il a une notion importante de la relativité de son propre bonheur par rapport à celui des autres. Et c'est une thématique que j'aime bien et effectivement, je considère qu'aujourd'hui, il faut être attentif un petit peu à ce qui se passe dans notre univers, enfin dans ce que vivent les difficultés, que vivent effectivement les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui sont en risque sous-alimentation, etc. Donc c'est un gros sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense particulièrement à la faim dans le monde, et cette notion de relativité de notre propre bonheur par rapport à celui des autres m'interpelle, et je pense que ce conte clôture d'une façon très élégante notre discussion.
Eh bien, merci. Je reprends donc la parole pour terminer cette émission d'invitation au bonheur. Donc, c'était Jean-Marie Marcos et Jacqueline Marié pour Invitation au bonheur. Vous allez découvrir maintenant le titre de ma propre liste de bonheur que je vais le plaisir de partager avec vous. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux. Au revoir Jacqueline.
Au revoir Jean-Marie et merci de m'avoir invité.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.